Bazooka!
Radio Panique 105.4 FM. C'est l'émission J-Boutique qui commence. On vous retrouve tous les mardis entre 6 et 7. Eh bien, si vous nous écoutez, sachez que Hubert est à la technique aujourd'hui. Merci Hubert. Et
bonjour, bonjour.
Voilà. Et alors, Aymeric au micro pour vous servir. Donc, et on a des invités, figurez-vous. On va parler aujourd'hui d'un festival qui a eu lieu il y a déjà un mois environ. Mais bon, on n'avait pas eu le temps de se préparer avant, donc voilà, on vous en parle après. Mais il faut dire aussi que c'est pas un festival comme les autres, c'est un festival où il y a un travail de rencontre aussi. Il y a eu une fameuse, je dirais, journée d'études et d'échanges. C'est comme ça que le festival a commencé pour moi, puisque j'y étais présent. Et donc, pendant cette journée d'études et d'échanges, il y a eu deux tables rondes. Une sur l'engagement des artistes migrants et une sur la pratique artistique féminine comme forme d'engagement de soi. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Brume, B-R majuscule et un petit U avec ensuite deux grands M. Alors c'est vrai que c'est un festival dont le nom interpelle, je dirais, qui a à peu près 2 ans d'existence, je crois. Mais bon, on est dans une période très particulière, donc c'est quoi l'existence dans ces temps troublés, hein? Donc on reçoit aujourd'hui, pour en parler, deux travailleurs du CBAI, Centre Bruxellois d'Action Interculturelle. Attention, attention, tenez-vous, hein, une ASBL qui fête cette année ses 40 plus 1 an d'existence. Donc bienvenue à vous, bonjour.
Bonjour.
Donc on a Tanjou et Hélène. Alors, Tanjou et Hélène, est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites au CBAI ?
Alors, moi, c'est Tanjou, effectivement. Donc, moi, je suis chargé de projet culturel au CBAI depuis un certain nombre d'années. J'ai notamment initié un projet qui s'appelle Le Monde en scène. On a eu l'occasion, je pense, d'en parler ici dans l'émission Djibouti il y a quelques années. C'était un projet qui entendait rassembler artistes et danseurs de toute origine de la scène interculturelle bruxelloise. Et qui a connu plusieurs développements tout au long d'une dizaine d'années de développement, voilà.
Et puis notamment un coffret aussi.
Oui, oui, il y a eu un coffret multimédia avec un DVD, un CD, un livret. Voilà, ça a été un gros projet qu'on a mené pendant une bonne dizaine d'années. Et puis il y a eu plein d'autres projets qu'on a développés au sein du centre Bruxelles d'Action Interculturelle.
Et maintenant Brume.
Et maintenant Brume, voilà. Bruxelles, musique migrante.
Ok, ok. Alors
Moi, de mon côté, je suis aussi chargée de projet au CBAI depuis moins longtemps que Tanjou, depuis 3 ans. Je m'occupe de projets culturels dans les écoles. Je suis un programme qui s'appelle La Cultura de la classe et j'en fais aussi l'évaluation avec une autre collègue. Et avec Tanjou, on a repris la coordination de Brume parce qu'on avait cet intérêt commun vraiment pour... les musiques traditionnelles, les musiques migrantes, les musiques du monde.
Tu as aussi une formation, je crois, d'ethnomusicologie.
Oui, voilà, moi j'étais formée à l'ethnomusicologie en France.
C'est ça. Ok. Bah écoutez, bienvenue. Et donc, on va essayer petit à petit de parler du festival. Et pour introduire en quelque sorte l'idée du festival, on va passer un extrait d'une des tables rondes qui s'est tenue. Et voilà, je ne vais pas dire ici, il s'agira de Leïla Amézian qui va exprimer un peu son point de vue par rapport à son travail et sa vision par rapport aux musiques du monde à Bruxelles. Voilà, si Hubert est prêt, on va écouter ça.
Là, je voulais juste encore rajouter un élément important dans comment je conçois l'engagement également. Alors oui, bien sûr, il y a la place de la femme dans la musique shaabi, ici en Belgique, mais il y a également la place simplement de la musique shaabi ici en Belgique. On a parlé tout à l'heure de musique du monde, world music. C'est vrai qu'à une époque, il y a eu cette appellation, l'intention était très bonne. C'était une manière de mettre en avant et valoriser les musiques en dehors des musiques européennes, en dehors des musiques occidentales, pour bien souligner le fait que le monde musical ne s'arrête pas à l'Occident, mais qu'il y a toutes les musiques du reste du monde. Alors aujourd'hui, cette appellation est un petit peu désuète. Il y a tout un débat sur est-ce qu'on doit encore parler de musique du monde, etc. Et j'y participe. Je trouve qu'il est très important, après presque 40 ans, qu'on remette en question des termes ou des terminologies qu'on utilise depuis toujours sans vraiment savoir ce qu'elles comportent. Musique du monde ici en Belgique, en fait la communauté marocaine et comme la communauté turque est présente ici depuis presque 60 ans. Moi je ne suis pas je suis enfant d'immigrés, donc je n'ai pas immigré, je ne suis pas une migrante. Ma démarche est plutôt d'être dans la continuité de quelque chose que mes parents ont apporté, mais je constate aussi qu'il n'y a pas de reconnaissance de ces pratiques. Qu'elles soient traditionnelles ou plus classiques. Alors il y a eu une dame tout à l'heure qui a réagi en disant « Oui, mais mon mari fait de la musique, mes enfants font de la musique. » Bien sûr qu'il y a des gens issus des différentes communautés d'origine étrangère qui pratiquent leur musique, et heureusement, ça permet à ces musiques de continuer à exister à travers les diasporas. Mais je pense qu'il est important et il est temps que toutes ces musiques soient reconnues, en fait, soient reconnues comme étant des patrimoines culturels belges, parce qu'elles sont présentes ici depuis maintenant 3 voire 4 générations, et que cette reconnaissance est nécessaire. Elle est nécessaire pas seulement pour les gens qui comme moi, qui la pratiquent depuis plus de 20 ans, et je n'ai plus besoin de m'identifier. J'ai traversé toute cette phase d'identification, j'ai cherché mes modèles, je les ai trouvés à travers pas seulement des musiciens d'origine marocaine ou autre, à travers des musiciens même de toute origine, mais je pense surtout à ces nouvelles générations, à ces jeunes à qui on n'autorise pas finalement d'avoir leur modèle, des modèles qui leur correspondent et qui leur ressemblent et qui leur permettraient de se définir et de choisir qu'ils sont en rapport à tout ce qui se passe autour d'eux.
Voilà un premier extrait donc d'une intervenante de ces deux tables rondes qui ont inauguré pendant cette journée d'études le festival Brume. Il s'agissait donc de Leïla Amézian qui pose une sorte de constat aussi et en même temps a une position par rapport à ce constat. Ce constat, si on regarde le petit livret qui servait un peu à résumer le festival, un livret très très bien fait, d'ailleurs je touche un petit mot au passage, parce qu'au niveau graphisme, je trouve que c'est un petit bijou. Alors on a justement un technicien là qui est graphiste, donc je l'inviterai un peu plus tard à analyser ce livret, parce que je pense que ça va lui plaire. Hein, et on verra si entre-temps on y revient, mais voilà, alors, moi j'ai trouvé ça...
On peut citer, on peut citer le graphiste, l'illustrateur Fred Navès, donc qui a réalisé la conception graphique de ce livret, qui est un illustrateur, graphiste, avec lequel j'ai pas mal travaillé sur un autre projet dont j'ai pas parlé, qui est le Brussels Game Festival. C'est lui qui a réalisé l'ensemble des affiches et des flyers et autres.
En tout cas, chapeau, c'est vraiment un petit
matériel,
un petit bijou
graphique
comme ça, pratique, petit, joli. Ouais. Moi, je le garderai dans ma pièce de vie juste pour l'avoir là, parce que
ça
me fait plaisir de l'avoir, quoi, franchement. Donc voilà, alors en plus, bon, il y a toutes les informations, évidemment, des belles photos et tout. Donc voilà, c'est une chouette manière. Et donc, derrière, on trouve comme texte que Brume souhaite contribuer à la connaissance, à la transmission et à la valorisation de ces musiques donc migrantes en les inscrivant durablement dans le patrimoine bruxellois. Alors bon, ici c'est vrai qu'on a des mots qui sont parfois un petit peu complexes, peut-être vous arrivez à en parler de manière plus simple, plus accessible, c'est pas toujours facile, on parle de musique migrante et on dit dans le patrimoine, c'est pas évident, je trouve, quand même de comprendre ces idées-là. Enfin, pour moi, en tout cas, à mon niveau. j'espère que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, éventuellement, ou réagir par rapport à ce qu'on vient d'entendre de Leïla Amézian.
Ouais. Bon, je pense que Leïla a très très bien résumé en quelques minutes les intentions, les ambitions de Brume. Et elle décrit parfaitement la situation des musiques que nous avons appelées nous migrantes, en référence à l'expression d'un ethnomusicologue d'origine suisse, Laurent Aubert, qui avait développé ce concept de musique migrante et que nous avons repris un peu à notre source, je veux dire, pour développer ce projet de Brume. Effectivement, Brume, c'est l'intention de Brume, c'est de permettre aux musiciens, aux musiciennes, aux interprètes, aux pratiquants de ces musiques qui sont nés dans un contexte migratoire ou post-migratoire, comme on peut le dire aussi. Et ces musiques qui, malheureusement, n'ont pas toujours la possibilité de trouver des publics dans les scènes de diffusion traditionnelle, comme les centres culturels, les salles de spectacle et autres qui ont pignon sur rue. Et nous essayons, en collaborant justement avec un réseau de centres culturels à Bruxelles, de permettre à ces musiques de pouvoir émerger en dehors du cercle communautaire, du cercle traditionnel lié aux communautés présentes à Bruxelles.
Oui, parce qu'un des axes du festival, c'est de favoriser les rencontres. Et à Bruxelles, il y a une richesse incroyable de pratiques musicales très diverses, dû à la très grande richesse des populations qui vivent ici. Et l'idée, c'est qu'il y ait une rencontre qui puisse se faire entre ces musiciens qui pratiquent parfois dans des contextes totalement privés, de faire sortir la musique des salons et de pouvoir la partager avec d'autres qui ne les connaissent pas du tout.
Mais c'est vrai que voilà, on écoute Leïla Amézian, bon, c'est une artiste professionnelle, donc peut-être, bon, on comprend que ce qu'elle souhaiterait, c'est qu'il y ait plus de gens. Elle a déjà fait, quelque part, un peu son bout de chemin, on pourrait dire. Elle a réussi à avoir une certaine reconnaissance ici, en Belgique. Et donc, on peut comprendre que peut-être son vœu serait que d'autres aussi puissent faire ce chemin et être reconnus professionnellement. Je ne sais pas si c'est ça aussi un des buts, c'est de professionnaliser, je vous demande.
C'est pas uniquement professionnellement, c'est aussi peut-être en opposition avec parfois, maintenant je crois que c'est beaucoup moins d'actualité, mais cette idée que une musique traditionnelle, quand elle est sortie de son contexte, n'est plus intéressante. Ça, Or, c'est pas vrai. Des musiciens qui jouent de la musique Chaabi ici, dans un salon bruxellois, ça, ont une pratique totalement, enfin, très intéressante dans un contexte précis. Et donc, c'est aussi comment ces musiques évoluent dans leur nouveau contexte, comment est-ce qu'elles se transforment, comment est-ce qu'elles se transmettent. Et ça, c'est aussi très, très riche, en dehors donc de la sphère professionnelle en soi.
D'accord. Donc, c'est par exemple, qu'est-ce que le fait que des femmes jouent du shabi, qui est un style plutôt marocain, mais qu'elles le jouent ici, qu'est-ce que ça signifie ou qu'est-ce que ça peut générer comme, comme chose nouvelle, peut-être ou par exemple, ça pourrait être ça
Oui, éventuellement, comment ça se transforme dans un contexte qui est différent de celui des fêtes quand elles se déroulent au Maroc.
D'accord.
Oui, quand elles se déroulent au Maroc ou quand elles se déroulent à Bruxelles, voilà. Mais dans des espaces communautaires, dans des mariages, des fêtes... propre à chacune des communautés présentes à Bruxelles, mais qui ne sortent pas de ce contexte-là. Et qui ne sont pas reconnues comme étant des musiques qui peuvent être valorisées, faire partie du patrimoine bruxellois, ce que revendique aussi Leïla Amezian dans son intervention lors de la journée d'études.
Donc elles ont difficile un peu à sortir de leur contexte, on va dire souvent,
pas qu'elles sont difficiles, je pense, à sortir de leur contexte et qu'on ne leur donne pas nécessairement l'opportunité de le faire. Un festival comme Brume peut être l'opportunité, effectivement, en tout cas, c'est l'ambition, d'offrir une fenêtre d'ouverture pour permettre à ces artistes, à ces musiques de pouvoir s'exprimer en dehors d'un cercle restreint.
Et pour permettre à tous ceux qui ne connaissent pas ces pratiques d'y avoir enfin accès, en fait. Il y a une richesse ici incroyable qui reste encore à découvrir, à mettre en valeur.
Et là, il faut effectivement saluer le travail que fait Leïla Amezian avec son projet Charbi Habibi, qui est justement de permettre à des femmes musiciennes pratiquant la musique charbi dans un contexte qui est celui effectivement des fêtes, des mariages, etc. De trouver des scènes
autres.
Autre, enfin en tout cas de pouvoir s'exprimer dans les circuits traditionnels où se pratique la musique, quoi, comme les centres culturels, les salles de spectacle et autres. Donc d'accord. Ça c'est quelque chose d'assez inédit et qui mérite d'être salué et soutenu.
Ok. Alors c'est vrai que on a donc des musiques à vous passer ici justement, puisque bon cette programmation, outre la journée d'échange et d'études et d'échanges, il y avait différents concerts. Hein. Donc on va vous passer de la musique de ces concerts. Alors un des premiers concerts, le premier même, c'était Hussein Racim et Alfredo Bravo. Donc un Irakien et un Brésilien.
Hein, c'est... Un Chilien.
Ah pardon, excusez-moi, un Chilien. Excusez-moi. Voilà. Donc, un Chilien qui vit à Anvers, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà, ok.
Un Chilien néerlandophone.
C'est ça ? Oui. Chilien néerlandophone. D'accord.
Et deux univers musicaux très différents.
Ouais. Ouais.
Hussein Racim, joueur de oud formé à la musique classique arabe. Mm-hmm. Et Alfredo Bravo, batteur dans différentes formations de rock.
C'est ça. Ok.
Plutôt expérimental.
Plutôt expérimental, oui.
Et c'est vous qui les avez réunis alors pour ce concert, on va dire, ou bien ils se connaissaient déjà ou...
Alors, ils se connaissaient, ils n'avaient jamais joué ensemble auparavant. Brume, c'est, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est un partenariat, enfin, c'est un festival qui repose sur un partenariat avec plusieurs centres culturels. Cette année, ils étaient quatre centres culturels, dont la Maison de la Création à Neder-Overijssel. Ici, c'est le site de Neder-Overijssel. Et c'est avec chacun des programmateurs, programmatrices des centres culturels que nous concertons pour développer la programmation. Ici, en l'occurrence, c'était une proposition de Thomas, de programmateur à la Maison de la Création, qui était en contact avec Hussein Racim, et Hussein Racim lui avait proposé de travailler avec un percussionniste qu'il avait déjà vu, mais avec lequel il n'avait encore jamais eu l'occasion de jouer. Et donc, c'était l'occasion donc, de faire une résidence. Ils ont travaillé ensemble pendant une semaine en résidence à la Maison de la Création de Neder-Overumbeek. Et le concert est le fruit de cette résidence, de cette semaine de création.
Parfait. Alors, je propose donc qu'on écoute un petit morceau de fruit de cette résidence et qui est lié au concert qui a eu lieu pendant le festival. Radio Panique 105.4 FM à l'écoute de Alfredo Bravo et Hussein Racim, un duo donc qui a été qui s'est consolidé, on va dire, qui s'est connu et mieux connu grâce à nos amis ici présents du CBAI, Tanju et Hélène, et à ce projet de festival Brume dont on vous parle aujourd'hui dans Djiboutique. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que on parlait justement de l'orientation générale du festival et des questions migratoires. Le CBAI travaille sur ces questions migratoires puisque c'est vraiment une priorité, je pense, dans le travail de ce centre bruxellois d'action interculturelle, les migrations. Et je crois qu'il y a eu quand même un certain moment où il y a où ça s'est clarifié un petit peu. Par exemple, ils ont créé une bibliothèque d'informations sur la question des migrations. Moi, j'ai l'impression quand même, cette question des migrations, s'intéresser à ça, on en parle plus, enfin, de plus en plus. Moi, j'ai cette impression, disons. Mais ça a toujours existé, c'est sûr. même à Bruxelles, le CBAI est sans doute un des pionniers, puisque il a été lui-même constitué par des personnes qui étaient migrants, qui, je pense.
Oui, tout à fait. Donc le CBAI, qui s'appelait initialement, lors de sa création en 1981, Centre socioculturel des immigrés de Bruxelles, il est devenu CBAI, Centre Bruxelles d'Action Interculturelle, qu'en 1991, c'est-à-dire au 10e anniversaire de sa création, a été créé à l'initiative d'anciens migrants, on va dire, d'immigrés, notamment issus de l'immigration italienne et espagnole. Donc c'était l'initiative notamment du CASIUO, hein, Centre d'Action Social Italien, et aussi du CFAUO, lié à l'immigration espagnole. Et donc c'est une initiative qui est née vraiment d'une volonté de migrants de la première génération, de constituer, disons, les cadres culturels et intellectuels de l'immigration ou des immigrations à Bruxelles. Donc c'était un des premiers objectifs de ce Centre socioculturel des immigrés de Bruxelles, qui portait dans son nom, dans son ADN, l'histoire des migrations à Bruxelles.
Ok. Et alors, comme on disait, comme je vous disais, voilà, c'est vrai que le CBAI travaille avec différents types de questions migratoires, on va dire, et puisqu'il y a un service qui s'occupe plus des primo-arrivants, comme tu le soulignais, Hélène, et d'autres services qui sont plus dans la recherche. Vous avez célébré, je crois, vous avez accompagné les anniversaires des migrations marocaines, turques, et récemment, vous venez de publier un livre sur l'immigration tunisienne. Donc, vous suivez tout ça dans la mesure du possible, de près, on va dire, et avec des pistes un petit peu séparées quand même, mais bon, en essayant de faire des recoupements. Je le vois comme ça, je l'analyse comme ça.
C'est très juste.
Parce que voilà, des recoupements, il y en a toujours à faire.
Et faire des ponts, surtout.
Et là, dans la programmation du festival, donc on s'intéresse vraiment aux migrations anciennes ou vraiment récentes. On s'intéresse vraiment à tous les types de migrations.
Et les effets que ces migrations produisent sur les transformations et les cultures présentes à Bruxelles.
Ouais. Ok. Alors donc justement, on vient d'écouter Hussein Racine d'Irak et Alfredo Bravo signaler que pendant cette journée d'études et d'échanges, il y a eu une projection d'un film qui était réalisé par des Belges qui ont suivi Hussein Racine, qui essayait de retourner donc là où il était venu après avoir obtenu des papiers en Belgique. Il fait le chemin inverse. D'ailleurs, le nom du film, c'est The Way Back. Donc il retourne vers l'Irak, enfin vers quelque part par là, mais du moins il essaye, puisque en fait entre temps il est arrêté et on lui dit non, vous pouvez pas aller en Grèce, et donc il n'arrive pas à y aller, il est obligé de prendre l'avion.
C'est donc, ça. Donc c'était effectivement un documentaire qui a été tourné en 2017, donc deux ans après l'arrivée de Hussein Racine en Belgique en tant que réfugié. L'objectif de des réalisateurs de ce documentaire était de rebrousser le chemin qu'Hussein Racine avait emprunté pour venir jusqu'en Belgique en 2015 et voir tous les lieux effectivement que ce musicien Hussein avait fréquenté, les rencontres qu'il avait faites à l'époque. Voilà, c'était l'idée, c'était de démontrer un peu que l'Europe s'enfermait dans ses frontières. Et effectivement, il était impossible pour Hussein de traverser les frontières en toute tranquillité, et qu'il a été arrêté en Grèce et il a dû rentrer en Belgique.
À de nombreuses reprises, à un moment, le film, enfin, on voit des frontières, des policiers, des gens en uniforme, on ne sait même plus dans quelle frontière on est. C'est des situations qui se répètent. Et c'est aussi l'occasion, quand il revient dans les endroits où il était hébergé, de rencontrer des gens qui sont en train de faire leur migration. Et c'est l'occasion enfin, de belles rencontres et de portraits.
Ouais. Donc il passe en Hongrie, un pays où il y a aussi même une sorte de promo, enfin de propagande du gouvernement pour ne pas accepter les migrants. Enfin, on voit des grands panneaux, etc. Donc on est vraiment dedans. Mais c'est vrai que finalement, bon, travailler avec des musiques migrantes, dans certains cas, ben, c'est quand même compliqué. Hein. C'est aussi, je pense, une des préoccupations du festival, de dire ben, comment on fait. Parce que parfois, il y a des sérieuses barrières. Hein. C'est quelque chose que, bon, on a déjà vécu. Enfin, je dis on, parce que nous, on est proche de ce monde des musiques, etc. Festival Esperanza, on essaye de faire venir les artistes congolais. Non, ils n'ont pas de visa. OK. Donc voilà, ça c'est des choses qui se sont passées et qui n'arrêtent pas de se passer tout le temps.
Oui, bien sûr.
Bon, alors voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué, je pense, et c'est pour ça que je dis c'est très ambitieux votre projet, j'ai l'impression. Et donc bah, pour passer donc en transition au premier panel, eh bien voilà, je pense qu'on y est là avec un premier panel, donc une première rencontre de trois personnes. Alors, on avait donc Émilie Dallage, Tamam Al-Ramadan, un musicien, lui syrien, réfugié en Belgique depuis 2015, comme c'est écrit dans ce super petit livret, et qui en fait a fait partie du groupe Music for Refugees, un nom
Refugees
comme ça.
Refugees for Refugees.
Ah, Refugees for Refugees, voilà.
Initié par Musique Publique.
Exactement. Et puis Émilie Dallage, elle, une sociologue de l'Université de Lille. Alors lui, bon, donc c'est un musicien, donc qui était là, présent, pour témoigner un petit peu de son parcours, et lui aussi, finalement, à un moment, explique, bah oui, moi, à un moment, c'est un bon musicien, il était déjà musicien professionnel, quelque part, dans son pays.
Ah, tout à fait, voilà. Très reconnu.
Et il arrive ici, bon, bah, il sait pas très bien avec qui travailler, voilà, c'est un petit peu difficile, puis au moment où il arrive à s'inscrire dans un groupe, on lui dit, ah, ben c'est bien, vous avez trouvé une date, vous allez jouer en Italie, ah oui, mais je peux pas y aller, moi, en Italie. Hein. Il a expliqué ça dans la conférence. Donc, voilà, on est quand même dans des problèmes, finalement. Déjà, on a un premier problème, il peut pas bouger. Donc, c'est pas évident de travailler avec les musiques migrantes.
Non. Il ne pouvait pas bouger. À un autre moment, il a aussi raconté, alors qu'il avait des concerts grâce à Musique Publique avec le projet Refugees for Refugees, en même temps, le CPAS de Namur ne le reconnaissait pas comme musicien et lui demandait d'aller travailler en cuisine. Voilà, son statut de musicien, en fait, imposer son statut de musicien a été très difficile. Et puis, ensuite, l'étape d'après, ça a été de... qu'il soit enfin reconnu comme un musicien à part entière et pas éternellement comme un musicien réfugié. Comme il le dit très bien, réfugié, c'est un état transitoire.
Ben oui, oui. D'ailleurs,
autant que il est issu d'une lignée de musiciens professionnels, qu'il a une formation académique classique de la musique arabe. Voilà, donc il a tous les attributs, disons, du musicien et qu'on lui dénie totalement sur le plan administratif ici en Belgique.
Oui, je crois que les choses s'arrangent heureusement quand même, oui. Mais cette réflexion sur le musicien qui ne veut pas rester comme ça dans ce statut-là, elle est importante aussi pour nous. Quand on dit Bruxelles musique migrante, il n'est pas question du tout de penser qu'on va s'intéresser qu'il y a des gens qui sont comme ça toutes les musiques sont migrantes, hein, comme tu le disais, Tanjou. Donc même un Belge né ici joue une musique qui est le fruit de migrations, de rencontres, etc. Donc il n'est pas question pour nous aussi de stigmatiser. On pourrait peut-être le croire parfois avec ce nom-là, mais c'est pas du tout ce que l'on pense.
Ok, ok. Je suis. Alors bon, ce qu'il trouvait intéressant aussi dans cette première rencontre, alors donc Émilie Dallage qui parlait de son expérience dans un camp à Grande-Synthe pendant un an, donc un camp de réfugiés en périphérie de Dunkerque, hein, puisque bon bah il y a eu beaucoup de mouvements de ce côté-là, puisque beaucoup de migrants essayaient d'aller en Angleterre. Et alors bon, bah, ce qu'elle insiste, c'est sur les propriétés, les vertus de la musique finalement pour permettre aux gens de s'installer, de s'enraciner un petit peu, hein, un bref instant dans un camp où finalement il y a une précarité totale, mais à travers la musique, il y en a un qui a un saz, ou il réussit à avoir un saz, et puis il joue, et donc il y a des liens qui se créent, et ça leur permet finalement de hisser un peu la tête hors de l'eau. Je dis hors de l'eau parce que, bon, ça, là, dans ce cas-là, c'est des gens qui étaient dans un processus migratoire qui était encore en cours.
C'est ça.
Et donc, ça suppose tout un réseau de passeurs et d'enjeux financiers, enfin, un gros stress, quoi. Donc, faire de la musique dans un contexte de stress, c'est pas évident, mais voilà.
Un contexte de stress et de déshumanisation, finalement, voilà. Aussi. Et la musique est un moyen, effectivement, de réhumaniser ces personnes qui sont dans une situation de contrainte absolue et d'enfermement, finalement.
Elle explique très bien que dans cet endroit où on n'a pas de chez soi, on n'a pas d'espace à soi, on ne maîtrise pas le temps, on est sans arrêt dans l'attente, que jouer de la musique ou jouer de son téléphone portable aussi, c'est-à-dire faire passer des morceaux que l'on aime à certains moments, c'est vraiment se réapproprier l'espace, se réapproprier le temps. Elle dit c'est comme faire un chez-soi, c'est comme mettre des meubles.
Oui, et d'ailleurs, elle a fait même un travail avec ces migrants, puisque via une association qui existe déjà depuis de nombreuses années à Lille, qui s'appelle Atakafa, Atakafa. Eh bien, ils ont travaillé avec les migrants en faisant des enregistrements et en échangeant, comme tu dis, sur leurs goûts musicaux, par exemple. Ils disent ah, ben tu aimes bien ça, bon, ben je vais le passer. Et alors, ils le passent dans l'enregistrement et voilà, ils essayent de créer un peu du lien, d'aider les gens un peu spirituellement, on va dire, pour qu'ils se sentent un peu mieux et plus enracinés, finalement, enfin plus présents ici, à travers leur passion, qui est la musique.
Oui. Donc, oui, tout à fait. Cette association fait vraiment un travail remarquable.
Et comment vous les connaissez, le lien, là, ça s'est fait...
Oui, peut-être Hélène.
Moi, je dirais que c'est Hélène Séchoué, oui, qui est ethnomusicologue ici à Bruxelles, qui, la première, nous a proposé d'inviter Émilie Dallage. Voilà, puis ça a fait tilt parce qu'on avait entendu parler de ce travail-là. Mais...
Ok.
Oui, donc la journée d'études s'est faite aussi. Donc le programme de cette journée d'études. Le programme de cette journée d'études s'est fait aussi en collaboration avec, nous avons cité Hélène Séché, donc musicologue, travaille notamment au laboratoire de musicologie de l'ULB, et Marco Martiniello, qui est également sociologue, directeur du CEDEM à Liège.
Qui est là un centre d'études des migrations. Et donc, apparemment, Liège est en train de prendre le leadership, la tournante, on va dire, la direction de différents pôles d'études des migrations en Europe.
Le CEDEM existe depuis déjà quelques années. Hein, donc, le CEDEM, c'est l'université de Liège. Hein, c'est un département de l'université de Liège. Oui.
Ok. Bon, écoutez, on va continuer avec un autre morceau d'un groupe qui était présent pendant le festival. Et donc, là, vous avez expliqué, c'est un partenariat avec différentes salles. C'est une proposition là, qui est venue du Centre culturel La Vénerie à Boisfort.
Tout à fait.
Et qui s'appelle Banalenke.
Banalenke, effectivement.
Vous connaissiez déjà
Non, c'est une découverte aussi pour nous. Nous ne connaissions pas Banalenke. Banalenke, en fait, est né d'une rencontre qui a été initiée par le Centre culturel La Vénerie entre des musiciens d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale et des musiciens belges, plutôt de la scène jazz et rock.
Voilà. Ok, bon, on va écouter ça.
Aïwa, kabana linke folilame. Aïwa, kabana linke folilame.
Radio Panique 105.4 FM, vous êtes à l'écoute de l'émission Djiboutique tous les mardis entre 18 et 19h. Aujourd'hui, on parle du festival Brume, BR majuscule U petit minuscule MM majuscule. Rigolo, hein, comme, mais bon, Bruxelles, musique migrante, voilà, c'est ce que ça veut dire. Et donc, on est avec Tanju et Hélène, et voilà, on vient d'écouter un des groupes qui était programmé à la Vénerie, il s'agissait de Banalenke. Et on va continuer à parler de certaines activités et actions qui ont eu lieu pendant le festival, notamment puisque bon, ben, le festival porte sur les migrations, eh bien, une rencontre, je crois, de public et d'artistes qui donc a eu lieu à Neder-Overenbeek pendant le concert de Hussein ou bien avant ou,
Pendant la semaine de résidence.
Pendant la semaine de résidence. Entre Hussein, Racim et Alfredo.
Oui, bravo. Et des mineurs non accompagnés d'un centre de fait d'asile de Neder-Overenbeek. Et aussi avec, à un autre moment, avec deux classes primaires, parce qu'on souhaite dans ce festival faire que les musiciens rencontrent d'autres gens et qu'ils prennent le temps de se rencontrer. Et donc là, avec ces mineurs qui étaient des adolescents essentiellement pachtounes. Il y a une belle rencontre qui n'était pas évidente parce qu'on n'avait pas de traducteur en fait. Donc tout a dû se passer par quasiment la musique et notamment les téléphones portables où en fait les musiciens ont joué pour les adolescents. Et puis après leur ont demandé, vous, qu'est-ce que vous aimez comme musique et finalement ce qu'on a trouvé comme moyen. D'ailleurs c'était un lien avec la journée d'études, c'était que les adolescents avaient tous des GSM et ils ont joué les morceaux qu'ils aimaient bien, ils les ont fait amplifier, les musiciens ont joué par-dessus, ont improvisé, et il y a eu cet échange comme ça qui était très chouette.
langage par la musique plutôt que par les mots.
Oui.
Donc il y a aussi un petit peu d'intergénérationnel dans Brume.
De l'intergénérationnel.
La transmission, la question de la transmission en tout cas est très importante.
Oui, hein. Oui, la transmission et la médiation. Voilà,
ici, transmission et médiation.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on va essayer de même de développer. On y croit vraiment. Essayer que les rencontres soient pas superficielles, mais assez importantes, en donnant du temps pour ça. Donc par exemple, là il y a eu plusieurs musiciens, hein, pas seulement le concert de les musiciens qui ont joué à Niederöverenbeck, mais aussi à la Villa de Ganseren et puis au Sangor. Il y a à chaque fois eu des animations scolaires. Et à l'avenir, on aimerait les développer encore plus, donner encore plus de temps et pas faire juste une rencontre, mais sur plusieurs semaines même.
Mais donc là, les animations scolaires se sont faites, on va dire, pour la plupart, en dehors du festival, je dirais, ou bien c'était un peu une coïncidence.
En lien avec le festival, c'est vraiment à l'initiative.
Oui, c'était programmé dans le cadre du festival. Évidemment, ce ne sont pas des dates publiques, hein, ce sont des dates réservées à certains publics scolaires ou associatifs. Mais ça fait partie, effectivement, du cahier des charges, on va dire, du Festival Brume. Oui.
Okay, et c'est quelque chose que les partenaires, donc, on va les citer, hein, puisque oui. Voilà, il y a le Sangor, donc, il y a la Maison de la Création, il y a l'Avenerie, donc, à Boisfort, et il
la
y a
villa.
Aussi
la Cette année, villa. Il y avait la villa, oui, à Ganseren, la villa qui était d'ailleurs à l'initiative initialement donc, de ce Festival Brume.
Ah bon?
Yes. Oui, donc c'est une idée qui avait été proposée par l'ancienne coordinatrice de la villa, Stéphanie Reisser, qui est également musicologue, qui avait fait cette proposition donc d'un festival autour des musiques qu'on a qualifiées par la site musique migrante, mais c'était une volonté qui venait effectivement d'un tout petit lieu qui s'appelle la Villa, centre culturel de Ganseren, avec des partenaires, le réseau des centres culturels, donc la concertation SBL, qui était au départ dans la coordination, qui s'en est retirée par la suite, mais qui était à l'initiative de la coordination du Festival Brume. Et puis nous, on a pris, en tant que CBAI, on a repris la coordination à partir de 2020. Voilà.
Donc c'est ça que tu voulais dire, maintenant je comprends, au début de l'émission, on a repris la coordination, tu l'as dit.
Ah, j'ai dit ça, oui, c'est ça. Oui, tout à fait.
Les festivals existent en tant que tels, existent depuis 2018. Il y a eu un premier numéro zéro, on va dire ça, en 2016, avec un événement consacré aux musiques gnawa. On n'était pas dans le coup à ce moment-là. On est arrivé en 2018 avec une première édition autour des musiques produites par les femmes. Ça s'appelait Made in Bruxelles. Ensuite, il y a eu une édition en 2019 consacrée aux cordes, aux instruments à cordes. 2020, c'était sur les rituels de printemps, édition qui a été tronquée à cause de la crise sanitaire. On a fait une première journée, c'était traditionnellement on commence par une journée d'études, donc on a eu cette première journée d'études au CBAI justement. Et puis le soir même, on a été confinés. Voilà.
le coup près.
Et donc on a en 2021, on a malgré tout, cette édition a été reportée en 2021, mais dans une version digitale. Donc les musiciens, les artistes, les groupes qui avaient été programmés en 2020, ont pu se produire, mais malheureusement uniquement dans un format digital.
Online,
effectivement. Ouais. Voilà. On les retrouve sur les plateformes digitales du festival, sur la chaîne YouTube, la page Facebook, le site internet brumefestival.be. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que tous les concerts, tous les événements qui ont eu lieu cette année, donc la journée d'études, les quatre concerts, ont tous été filmés et seront prochainement diffusés sur les différentes plateformes. Notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre site internet.
Ok, super. Alors, on va passer à un autre extrait musical qui nous introduit un petit peu dans le deuxième panel. On n'aura pas le temps de parler beaucoup du deuxième panel, mais on est content d'échanger avec vous autour de des petites anecdotes, des infos comme ça qu'on ne connaissait pas, en tout cas, par rapport à ce festival qu'on découvre, en fait. Hubert, je pense aussi, le découvre. On n'a pas eu énormément d'occasions. C'est tant mieux que ça se reprend, ces initiatives, ces échanges. Donc, il y avait un autre projet musical aussi qui, comme vous l'avez dit au début, c'était vraiment à votre initiative de provoquer, dans le cadre du premier artiste qu'on a écouté, c'était vous qui aviez provoqué la rencontre. Dans ce cas-ci, Bnet Chabi, c'est un peu via Leïla Amézian que vous connaissez bien, et c'est elle qui porte, entre guillemets, elle porte pas le projet, mais d'après ce que j'ai compris, elle l'encadre d'une certaine façon. Elle, en tant qu'artiste professionnelle, a décidé d'accompagner des chanteuses de Chaabi. Et donc, ça donne un groupe qui a enregistré, je sais pas si elles ont enregistré des chansons, mais en tout cas, ce qu'on va écouter, c'est un extrait du live qu'elles ont réalisé à la villa de Gansoren.
C'est ça.
Qui a eu du succès, ce live ?
Incroyable.
Ouais. On écoute un sold out 15 jours avant.
Excellent, oui, c'est vrai. On écoute ça alors. Et le nom alors du groupe, Chaabi Habibi
Sultanat Bnet Chaabi.
Sultanat Bnet Chaabi.
سوية ويهيهيه معفر تعفر سوية
de Chahabi belge, bruxellois, donc, et donc porté par Léla Amézian, mais avec différentes musiciennes qui, comme me le disaient ici Tanju et Hélène hors antenne, eh bien, ont eu l'occasion de parler, de s'exprimer un peu avant le concert. Et voilà, c'était apparemment quelque chose que vous espériez, qui fait partie un petit peu des modalités de ce genre de festival, où on met l'accent sur la rencontre, les échanges. Et donc, petite précision, je demandais donc, c'est par rapport à ces deux noms, Chahabi Habibi et Sultana Bnet Chahabi. Donc, on a un groupe de femmes marocaines qui, traditionnellement, ben, jouaient plutôt entre elles à la maison. Et qui, un jour.
À la maison ou dans des salles de mariage
Salles de mariage ou des fêtes privées.
C'est
voilà.
Ça, tout à fait.
Et puis, qui un jour rencontre une artiste professionnelle, marocaine aussi, Léla Amézian, et qui, petit à petit, ben, voilà, essaye de faire aussi des concerts dans d'autres. Contexte, hors communauté, etc. Et c'est vrai que, donc, on a le groupe qui s'appelle Sultana Bnet Chahabi, mais comme le souligne Tanju, il y a aussi le projet Chahabi Habibi, qui est en fait, qui ne se réduit pas à une prestation d'un concert dans un endroit, mais plus, il y a aussi une recherche sur la musique.
C'est ça, tout à fait. Oui, oui. Donc une recherche, un recueil de témoignages, d'expériences, aussi la volonté de rendre la musique Chahabi accessible au plus grand nombre à travers des conférences, des concerts et divers projets donc que Leïla mène avec Hélène Séché, donc musicologue.
Ok, excellent. Bah écoutez, le temps passe et on arrive à la fin de l'émission. Hubert se rapproche du micro. Non ? Ok, je croyais qu'il voulait dire quelque chose par rapport au petit livret. Tu nous diras quand même, peut-être hors antenne, ce que tu penses du livret, hein, Hubert. Parce que, voilà, ça m'intéresse d'avoir un avis des pros, quoi. Ok. Alors, donc, merci en tout cas d'être venu ici, d'avoir parlé de votre festival. Et bah, moi, je fais une petite annonce quand même, que demain, à 7h, eh bien, il faudra se lever tôt pour écouter, mais on reçoit des acteurs du festival Millennium qui, lui, commence. Il y a une inauguration ce jeudi, et puis vendredi, bah c'est, on va dire, le premier jour de festival Millennium, donc autour du film documentaire, et bah, qui parle notamment aussi de certaines questions migratoires. Si vous regardez, il y aura un film samedi, En attendant le déluge, produit ici à Bruxelles, sur des migrants qui vivent en Belgique. Oui, Tanju ?
Oui, donc je voulais dire aussi que, juste citer le dernier groupe qu'on n'a pas eu l'occasion d'entendre ici, donc qui est le Michel Ménine, le Quartet, et Lisa Rossillo, qui avait proposé un projet autour du répertoire de Victor Jara, le poète assassiné, enfin poète chanteur assassiné par le régime de Pinochet.
Voilà, ben merci encore à vous d'être venus et bonne soirée aux éditeurs sur Radio Panique. On se quitte avec un tout petit morceau avant que l'émission suivante arrive. Il s'agit encore de Hussein Racim et Alfredo Bravo. Merci encore à Hubert pour la technique. C'était Djiboutique. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée. Merci.
رأى تحت العشب طير صغير. Tira na mão, sabão.